l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.
Grand Sud FM a invité ce jour Quentin Estrade, que les auditeurs connaissent probablement, parce que vous êtes déjà impliqué, Quentin Estrade, dans la vie politique narbonnaise. Vous avez été notamment candidat aux dernières élections législatives. Mais là, c'est totalement différent. D'abord, professionnellement, vous êtes médecin, cardiologue, c'est ça ?
C'est exact.
Et vous êtes interne aujourd'hui ?
C'est exact.
À Toulouse, enfin Toulouse-Carcassonne, pour bien fixer les choses. Et alors, à propos de la guerre d'Ukraine, vous êtes, non pas immiscé dans la guerre, mais vous vous êtes rapproché d'un... Alors d'une opération, c'est pas un jumelage, en tout cas à ce jour, mais une opération d'aide organisée par l'association Narbonne-Ukraine, avec la ville de Mykolaïv, qui est dans le... Alors pas loin de Kherson, pour situer dans le sud-est de l'Ukraine, c'est-à-dire là où il y a des combats très virulents aujourd'hui. Et vous avez à un moment, en tant que médecin, décidé d'aller apporter votre aide à un hôpital, enfin l'hôpital ou un des hôpitaux de Mykolaïv, c'est ça ?
C'est exact. Il y a 5 hôpitaux publics et après il y a aussi des hôpitaux d'urgence chirurgicale. Et c'est dans cette ville que je suis allé aider en apportant une aide humaine et médicale grâce à l'association Narbonne-Ukraine.
Oui. Alors grâce à cette relation, donc vous aviez déjà des relations avec un responsable de l'hôpital où vous êtes allé.
Quand il y a eu le premier convoi de l'association Narbonne-Ukraine, on m'a sollicité en me disant « Quentin, toi qui es à l'hôpital, est-ce que tu peux pas avoir du matériel ?» Et j'ai dit que non, à 26 ans, j'avais pas ce pouvoir décisionnaire. Par contre, ce que je pouvais faire, c'est donner mon temps. Donc j'ai pris 15 jours de vacances et on m'a mis en contact avec le chef de service d'anesthésie et réanimation à Mykolaïv. Et tout est allé très vite pour en un mois monter ce voyage, cette expérience, ce périple, pour arriver sur place et apporter un peu de chaleur humaine et un peu de réconfort.
Voilà. Et votre aide personnelle en tant que professionnel, donc.
C'est ça.
Alors expliquez-nous quand même, parce que c'est vraiment pas simple. On sait par exemple que les Narbonnais sont allés apporter énormément de matériel pour cette ville de Mykolaïv, mais n'ont pas pénétré sur le territoire ukrainien. Ils ont laissé ça à la frontière polonaise. Bon, pour des raisons faciles à comprendre. Donc vous y êtes allés. Cette ville est tout près du front.
Cette ville, au moment où on lance ce projet d'aller sur place, est à 2 km du front. Et la semaine avant que j'arrive, Kherson tombe. Donc le front se décale à 50 km. Donc on est à Narbonne et ça se bat à Béziers. Et tous les jours, vous avez des alertes à la bombe où il y a des frappes russes qui viennent détruire un coup la station de traitement des eaux. Le lendemain, un bâtiment en ville. Et vous recevez ces jeunes hommes qui ont mon âge, qui ont 26 ans des deux côtés. Blessés par balles, blessés par des obus. Et en parallèle, vous avez aussi la population civile qui a les maladies de la vie courante, comme on peut les connaître en France, à prendre en charge.
Oui, 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 voilà. C'est ça l'expérience que vous avez vécue au quotidien là-bas.
C'est cette expérience-là, et c'est se plonger dans une atmosphère un peu hostile, où il fait entre moins 2 et moins 5 degrés. Et
alors, en plus de la guerre.
Et là, ça va arriver jusqu'à moins 20, les coupures de courant, les frappes quotidiennes, les médecins qui vous racontent leur vie avec leur famille en exil, avec leur souffrance, avec leurs problèmes au quotidien, le manque de moyens. Le fait de recycler des aiguilles plusieurs fois, alors qu'en France, des aiguilles à usage unique, recycler des seringues, utiliser des grands draps blancs que vous allez laver au bloc opératoire pour réutiliser, se débrouiller avec très peu de moyens pour faire énormément de choses avec beaucoup d'abnégation. Et je suis admiratif des médecins sur place, de ce qu'ils arrivent à faire.
C'est vraiment le système D, la débrouille, quoi.
C'est ça.
Oui. D'ailleurs, un des objectifs essentiels de cette opération Narbonne-Ukraine, c'était d'y apporter du matériel médical.
Et honnêtement, sur place, on peut constater l'aide humanitaire qui arrive. Je sais qu'entre deux alertes, une fois, on avait déchargé des convois d'aide humanitaire. Et mon chef m'a dit, on ne sait jamais ce qui arrive, mais on sait toujours qu'on en a besoin. Parce qu'il leur manque de tout. Et c'est vrai que là, il m'a dit, tu as eu une action médicale, technique. Tu as eu une action humaine en nous écoutant, en nous réconfortant, en parlant de la vie. Ça nous a fait du bien. Et là, tu vas avoir un très grand rôle à ton retour. À ton retour, tu vas avoir un rôle important qui est de récupérer encore plus de matériel, de parler de ce que tu as vu pour pas qu'on nous oublie 9 mois après, malgré la Coupe du monde de foot et les fêtes de fin d'année.
Oui, oui. Et alors, vous parliez justement du contact avec les médecins là-bas sur place. Bon, l'ukrainien, on sait que c'est une langue slave, assez proche du russe. que peu de Français parlent, que vous ne parlez pas, j'imagine. Alors comment communiquiez-vous, Quentin Estrade, là-bas sur place ?
Je vous disais, avec les médecins, on a la chance de beaucoup de font des congrès, donc on pouvait parler un peu anglais. La nouvelle génération parle aussi anglais. Et après, j'avais un rôle vraiment technique, faire ce qu'en France, des échographies cardiaques, c'est quelque chose qu'on fait partout. Et eux, dans l'hôpital où j'étais, il n'y avait plus de cardiologue pour faire ce geste. Donc un geste technique, vous pouvez toujours le faire. Mettre un cathéter artériel en réanimation,
oui, la gestuelle est
vous
la
pouvez
même.
Le faire. Donc cette action-là, vous pouvez la faire. L'aide au bloc opératoire, vous pouvez la faire. Et après, vous vous débrouillez. La communication, j'avais un prof espagnol, M. Matteux, qui me disait, avant tout, c'est vouloir échanger avec l'autre. Mmh. Et quand tu as envie d'échanger, tu trouves les mots. Tu trouves le sens, tu as une main sur l'épaule, le non-verbal compte beaucoup, et après, voilà, Google Traduction marche aussi très bien, mais, et on arrive à faire passer les messages.
Mais enfin, la langue de repli, c'est l'anglais.
La langue de repli, c'est l'anglais.
Dans ces cas-là. Et à propos de linguistique, alors, vu d'ici, parce qu'on a beaucoup de mal, nous, Français et Européens, d'ailleurs, Européens de l'Ouest, à comprendre vraiment les relations entre, les relations historiques entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que c'est de la fraternité, comme le dit Poutine? Est-ce que c'est de la vassalité, comme on a l'impression que c'est aujourd'hui? Sur le plan linguistique, on dit que beaucoup d'Ukrainiens ne parlent même pas ukrainien, ne parlent que le russe. Est-ce que c'est vrai? Vous l'avez constaté, vous?
Moi, ce qui est sûr, c'est que je ne comprends ni l'un ni l'autre, donc je ne peux pas vous dire ce que les gens parlent autour de moi. Mais quand tu discutes avec tes chefs, ils te disent que effectivement, 50% de la population parle russe, 50% parle ukrainien. Après, c'est des langues qui sont très proches et que tous arrivent à comprendre entre eux. Mais après, c'est vrai, comme vous disiez, l'histoire est très complexe et je la laisse aux spécialistes qui la raconteront mieux que moi. Mais cet événement est en train vraiment de souder un peuple qui se réveille face à son grand voisin et qui impressionne toute la communauté internationale. Et je pense qu'il va se souder, qu'il y aura un avant et un après, et qu'il va remporter une paix durable. Du moins, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter.
Hein. Oui, c'est-à-dire politiquement, pour vous, vous y voyez vraiment une rupture dans l'histoire.
Je pense qu'il y aura une rupture. Il y aura un avant et un après.
Oui, voilà. Et c'est-à-dire que le peuple ukrainien, qui jusque-là était probablement plus ou moins vassal, fait tout pour s'extirper de cette vassalité.
Après, c'est un peuple qui est très fier, qui par le passé avait déjà été indépendant. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration. Ce que je disais avant l'interview, c'est un pays dans lequel, sans la guerre, je ne serais jamais allé. Oui. Et là, du fait de la guerre, j'y suis allé et j'ai appris à connaître un peu leur culture, leur mode de vie, apprendre à les aimer et avoir envie de les aider encore plus. Et ce qui est admiratif, c'est que malgré toutes les épreuves, ils sont là, ils ont la tête haute, ils se soudent, ils avancent, il y a une réelle dynamique. Je veux dire, tous les programmes de télé sont tournés vers ça, les discussions sont tournées vers ça, et ils arrivent à se souder.
L'effort de guerre, comme on dit, il est à 100%,
apparemment. Oui, l'union sacrée, on voit ce que ça pouvait être en 14 chez nous.
Oui, oui, et le chef d'État Zelensky est devenu une star mondiale à cause de ça, probablement, d'ailleurs.
Sans doute, oui. Après, je veux dire, en interne, il y a des discussions parce que des gens ne sont pas dans l'admiration. Il ne faut pas être dans l'admiration. Mais ce qu'il a réussi à faire là, pendant la guerre, c'est impressionnant. Et après, ils auront des élections à la fin de la guerre où il y aura des... Voilà, chacun exprimera sa pensée. Hein.
Alors justement, exprimer sa pensée, Quentin Estrade, vous-même qui êtes dans le monde de la politique, puisque en France, ça vous intéresse, vous savez très bien que quand on peut exprimer sa pensée, ça veut dire qu'on est plus ou moins en démocratie. C'est pas le cas en Russie, par exemple, aujourd'hui. Est-ce que vous aviez l'impression, justement, qu'ils sont dans un esprit de démocratie tel que nous le concevons?
Ah, bien sûr. C'est les gens qui aspirent à la paix, c'est les gens qui sont comme vous et moi. Et bien sûr, ils aspirent à la démocratie, et je leur souhaite de connaître le plus vite possible une vie la plus normale possible.
Oui. Et alors, en rentrant, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes jeune, donc, avec le temps que vous en aurez retenu comme leçon.
Ouais, loin des stéréotypes et des idées préconçues, mais je veux dire, la première chose que vous faites quand vous êtes à l'hôpital à Chisianou, en Moldavie, au retour, et que vous avez 5 heures d'attente, c'est passer 5 heures à pleurer parce que vous avez l'adrénaline qui retombe, le manque de sommeil qui retombe, et vous conscientisez toutes les horreurs que vous avez vues, mais que l'effet de groupe vous faisait passer au-dessus. Et après, quelles leçons en tirer? Je pense que, bien sûr, ça vous fait prendre beaucoup plus de recul sur la vie de tous les jours. Ça vous fait avoir de l'admiration pour ces gens et ça vous fait prendre les choses du quotidien avec beaucoup plus de relativité.
Oui, la relativité, c'est sans doute ce que vous aurez peut-être dit. Un tout dernier mot, pour aller là-bas, comment avez-vous fait au point de vue transport? Parce que c'est pas simple non plus d'arriver à Mykolaïv à l'hôpital.
C'était très compliqué parce que je veux dire, il n'y a plus de vol direct pour l'Ukraine. Donc je suis parti le dimanche matin de Toulouse pour Rome. Après une escale, j'ai pris un autre vol jusqu'à la capitale moldave, et après c'est un bus de nuit qui vous fait passer la frontière. Et là, ce bus de nuit, comme vous avez que des gens avec des passeports locaux, Vous, c'est vrai que les gardes frontières, ils ne comprennent pas qu'est-ce que vous faites là. Donc, oui. Ils vous font descendre du bus
à 2h du matin. Un passeport français ici,
ça... et moins de degrés. Vous avez la fouille corporelle. On vous fait dévider le sac. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et après, il y a un blablacar qui vous emmène d'Odessa jusqu'à l'hôpital. Une douche et la vie repart. Mais c'est vrai que c'était un beau périple et c'est formateur.
Et alors, on va conclure là-dessus. Ça va peut-être surprendre beaucoup de gens, Quentin Estrade. Blablacar en Ukraine.
Blablacar en Ukraine.
Et c'est ce qui vous a permis d'arriver jusqu'à l'hôpital.
D'arriver jusqu'à l'hôpital, oui.
Voilà. Bon, bah, on conclut là parce que l'image est trop belle. Merci pour ce témoignage, Quentin Estrade.
Merci à vous toutes et à vous tous et pour l'aide que vous continuerez à envoyer à ces gens-là.
C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.